voix nue. Cette semaine, en partenariat avec France 5, France Culture propose la rencontre de Jean-Noël Jeanneney avec Anne Pinjot. Ce soir, la vie, ça aurait été mieux.
Anne Pinjot, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeanneney.
Je voudrais que nous en venions à ces relations entre François Mitterrand, entre lui et vous, qui sont vraiment sans pareil. Le lecteur a envie de vous poser un certain nombre de questions. D'abord de saluer toutes ces formules magnifiques qu'il dirige vers vous, que son amour dirige vers vous. Anne, au cœur donné et à l'âme fière. Tu es ma lumière, mais que t'ai-je donné? Plus que tu dis, moins qu'il ne faut. Notre histoire est si difficile qu'elle a bien le droit d'être unique. Et ceci encore, Anne, objet? Non, mais tu le dis, tu le crains. J'ai choisi ces formules parce qu'elles me paraissent conduire au cœur, en somme, de la force et peut-être des ambivalences de votre amour.
Et au fond, c'est quasiment de la culture hors sol, quoi. Vivez avec... C'est un chasseur séducteur, mais qui... Je pense qu'on ne peut pas résister. Je pense que ce n'était pas possible. Et en même temps, c'est quand même merveilleux d'aimer quelqu'un qu'on admire. Ça doit être tellement triste d'aimer quelqu'un qu'on n'admire pas.
Mais en même temps, vous vous débattez.
Ah, que oui. Je pensais toujours que je suis la chef de M. Seguin, que je me suis battue toute la nuit, mais qu'au matin, j'ai été mangée.
Il écrit quelque part, « Rien n'explique clairement notre insolite entente. Pas même mon appétit supposé de loup-garou, entre parenthèses hypothétique, pour vos 20 ans, entre parenthèses réels. »
Eh ben oui. Oui, mais j'ai évidemment essayé de le quitter, beaucoup, d'ailleurs ces lettres sont souvent le reflet des essais. Mais pour simplifier, personne n'arrivait à être aussi intéressant. Personne n'était aussi fascinant. C'est tellement important de ne jamais s'ennuyer, de toujours voir les choses avec... de plus haut, de plus loin, Enfin, je ne me suis pas ennuyée, au moins.
On l'aperçoit bien dans cette correspondance. On aperçoit aussi sa jalousie par moments, ces jeunes gens fades qui l'inquiètent un peu, que vous retrouviez dans des rallyes.
Eh oui. C'est vrai que les jeunes gens ne sont pas très intéressants.
À l'époque?
Oui.
Anne, dit-il à un moment donné, je te donne tout. Et pourtant, il ne vous a pas tout donné.
Ah non. Le sommet étant évidemment la Chiesa. Je dois dire que là, ça a été un coup irréparable. Puisque j'ai trop... Comment il dit notre ami Stendhal, enfin, j'ai trop fantasmé sur ça.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
C'était un endroit de rendez-vous près d'Osgore, dans la forêt. Une maison abandonnée. Et où on se retrouvait tout le temps. Et où il avait dit, mais ça sera notre maison. Et c'est devenu la maison officielle, familiale. Et ça, c'était... Bon, c'était plus pareil après, quoi.
C'était un tournant décisif?
Oui.
Comment l'expliquez-vous?
Oh, beaucoup d'explications. D'abord, l'amour de la liberté. Je pense que cette façon de vivre... lui convenait très bien. Et puis, c'est plus facile, je pense. Et puis la compensation de Gordes, qui devait penser être une compensation.
La compensation de Gordes, c'est-à-dire?
C'est-à-dire la maison de Gordes. Il a fait construire une petite maison, avant même la naissance de Mazarine d'ailleurs, où on allait assez souvent, et que Mazarine a fait agrandir, qu'elle aime beaucoup. Et donc, ça compensait. Mais c'était autre chose. Enfin, j'aimais aussi, puisque c'était une maison où on pouvait croire qu'on vivait ensemble, puisqu'on y était tous les deux. C'était jamais très long.
C'est en fait l'élection de 1981 qui, à certains égards, était pour vous cruelle par la distance qu'elle manifestait, qui vous a permis de vivre ensemble. D'ailleurs, on voit à partir de 80, oui, la correspondance qui, elle ne se tarit pas, mais elle est beaucoup moins riche.
Il n'y a plus besoin de l'être, puisque ça c'était... Mais aussi, c'est son système de justice. Il ne dit pas les choses, mais il les fait. Et se rendant compte de du déséquilibre dans ce palais qui appartient à la présidence de la République et qui, pour loger les collaborateurs, donc c'était pas... Je prenais la place de quelqu'un, mais qui a été logé autrement, qui habitait Paris. Et là, on a enfin vécu ensemble. Donc, compenser l'extrême cruauté de supporter la vie officielle, qui s'est allée dans tous les journaux, dans toutes les télévisions, par la vie secrète du soir et des week-ends, qui était infiniment importante. Mais ça faisait partie de ces balances. Il ne le dit pas et il le fait.
Ne jamais renoncer à rien.
Ne jamais renoncer à rien.
À un moment donné, il se défend de l'idée de collection. J'ai relevé cette phrase. Pourquoi n'avez-vous pas donné une photo ? Non, il n'y a pas de collection. Vilaine Anne, qui ne comprend rien. Notre histoire est si difficile qu'elle a bien le droit d'être unique.
Non, là, je pense qu'elle n'a pas été unique du tout. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres histoires. Mais celle-là, elle a été fondamentale pour les années 60. Je pense qu'elle a été fondamentale pour sortir des affres de l'Observatoire. Une épreuve très terrible. Et sortir de là, et tout d'un coup, l'énergie que peut donner l'amour, qui est un moteur, vraiment un moteur. Et on le sent dans ces années 64, 65. Et tout d'un coup, ça débouche en 65. Tout d'un coup, il va récupérer son pouvoir, si on peut dire, sur les gens.
C'est le moment où votre amour atteint son...
Oui, oui. Et ça a été vite embrayé dans la conquête du pouvoir. Mais ça a vraiment contribué à son énergie. Ça, c'est certain.
On est souvent frappé en lisant ces lettres qui sont splendides d'invention, d'imagination, qui sont des œuvres littéraires pour beaucoup d'entre elles. On est frappé de voir que souvent, il donne le sentiment de se regarder lui-même vous aimer.
Peut-être.
Mais avec un besoin de vous qui...
Mais à la fin, je lui reprochais ces lettres trop belles.
Reprocher pourquoi ?
Parce que je trouvais que c'était... que la vie, ça aurait été mieux. Mais...
Il en vient à un certain moment à vous raconter ce que vous avez vécu ensemble, à la fois dans ce journal dont vous reproduisez les facsimilés et dans ces lettres aussi. Et on voit qu'à un moment donné, cela vous irrite.
Moi, je n'ai pas un caractère très, très facile. Mais c'est vrai qu'on s'amusait, on parlait de la réincarnation, et je lui disais qu'il était un ancien chien. C'était quelqu'un qui fait toujours sa ronde autour du troupeau pour que le troupeau soit bien en rond et tout le monde ensemble. Et c'est ça qu'il voulait toujours. Et en politique, et dans la vie familiale, il veut qu'il y ait tout le monde. Il ne supporte pas qu'on quitte le cercle. Et c'est pour ça qu'à la fin, moi, je ne supportais plus le téléphone. Le téléphone, ça voulait dire qu'il n'était pas là, mais qu'il tenait son cercle par le téléphone. Et je lui ai dit, ou vous êtes là, ou vous n'êtes pas là, mais je ne veux pas la deuxième, les autres cercles. Et au fond, là encore, ça a été une chance, parce que ces dernières lettres qu'il a écrites, en 95, sont vraiment des lettres qui m'émeuvent encore. Et il y aurait eu le coup de téléphone, il n'y aurait plus rien. C'est quand même parmi les belles lettres d'amour qui existent, je trouve.
C'est dialectique de la voix et de l'écriture. Mmh. On y songe souvent en lisant cette correspondance, puisqu'il évoque ses coups de téléphone et votre voix changeante et la manière dont s'organise ce commerce entre ces mots écrits et ces mots dits. Et puis il y a le jeu du tutoiement et du voussoiement qui frappe.
Oui, mais ça, c'est, dès qu'on était avec quelqu'un, c'était le vouvoiement obligé, donc c'était l'habitude, mais ça dépendait.
Je relève ce texte, on est en juillet 1964. Crois-moi mon âne, laisse-moi faire une minute mon fâcheux esprit, cette vue très conforme, très bourgeoise et très conjugale n'est pas mon fort. Et elle évoque... le fait qu'il ne pourrait jamais être votre mari. Et il ajoute, ou bien je serais déjà parti m'installer en islam. Encore le Coran ne va-t-il que jusqu'à 4, ce qui est trop ou trop peu.
Oui, je pense trop peu.
Plus largement, je voudrais que nous évoquions ce que de l'homme politique on trouve reflété dans ces lettres. D'abord, il y a la vie d'un député de province dans ces moments-là, n'est-ce pas?
C'est important. Mais qu'est-ce que c'était dur de partir à l'aube, de prendre ses autorails, de prendre ses trains, cette voiture qui conduisait tout le temps dans des pays où il n'y a que des tournants, il y a du brouillard, et il allait un par un, chaque hameau était marqué avec une petite... c'était systématique. Et il avait un vrai contact avec les gens. Un vrai. Et moi, je l'ai suivi au début. J'ai assisté aux réunions du conseil municipal.
Dans la Nièvre.
Oui, mais... Il connaissait tout, mais c'est ça qui lui a donné cette connaissance que les autres n'ont plus maintenant. Ils savent plus ce que c'est. Ils sont des attachés parlementaires, ils font pas... Il était vraiment... Il allait dans les champs voir les gens. C'est tout à fait intéressant.
Des kilomètres et des kilomètres, ouais. Et des kilomètres sur des routes l'hiver souvent verglacées. D'ailleurs, ouais. Il glisse quelquefois.
Oui, il a des accidents. Puis les descriptions des gens là-bas. Ça, c'était le bon côté. Enfin, aussi, il m'écrivait ce qui me faisait plaisir à entendre. Donc, son côté courageux. Mais il y a aussi la description d'une journée d'un parlementaire. Il y a une lettre tellement drôle au début où il raconte. C'est une immense connaissance de ce que c'est que la politique, mais par le terrain.
Le terrain.
Et ça veut dire qu'on aime les gens aussi, parce qu'on ne le fait pas si on n'aime pas.
On ne peut pas jouer cela.
Non. Non, c'est trop embêtant.
Avec une vie prodigieusement pleine, des conférences, une occasion où lui dites que cela vous est un peu dérobé, les conférences, les interventions, les discours, les articles, ouais. Les livres en cours. Il dit à un moment donné, mes journées sont semblables à un tableau de Carzou. Là, on en arrive à ce qu'il porte dans son combat politique, cet équilibre entre des principes et une certaine fluidité. Il y a un texte sur capitalisme et collectivisme, je trouve assez topique, le refus de se laisser enfermer. Je crois que ça intéressera ces biographes. Se laisser enfermer dans le carcan de doctrine trop simple. Il n'aime pas ça du tout, bien sûr, il n'aime pas ça du tout. Il écrit « Nous ne vivons pas en une époque d'affrontement catégorique, révolutionnaire. Le collectivisme a remporté sa première grande victoire en 1917 en Russie, et puis il a vieilli, pas autant que le capitalisme, certes. Mais à force de se frotter l'un l'autre, ils ont usé leur énergie et s'accommodent de leur coexistence. » Il n'y a donc plus que des solutions d'aménagement, de transition, d'adaptation, de gestion. Naturellement, j'ai choisi cette période en n'étant pas tout à fait indifférent au débat d'aujourd'hui sur l'évolution du socialisme français. Les théoriciens s'habituent mal à cela et se réfugient dans la discussion interminable de la thèse et de l'antithèse. Et comme ils ne sont pas en mesure d'imposer leurs principes périmés, ils finissent par bâtir un monde à eux, où les formules dévorent peu à peu la substance, à la manière de ces diététiciens qui se préparent à nourrir l'humanité avec des pilules comprimées plutôt qu'avec des pommes. Ah, les bonnes tartes sucrées et des truites farcies. Fin de citation. Vous le retrouvez là?
Oui, tout à fait. Oui. J'aimais bien sa distance. Pas de distance pour aller voir les gens dans les champs, mais de la distance dès qu'on abordait les idées.
Le refus d'y être enfermé.
Oui.
Toujours rester libre.
Toujours rester libre.
C'est évident, jaillit de page en page.
Essentiel.
À titre privé et à titre politique.
Oui.
En même temps, il vous tient au courant des moments majeurs. Je pense à ces trois cartes postales du congrès d'Épinay.
Ah oui. Alors c'est trop dommage parce que Gallimard ne pouvait pas reproduire les images. Mais pourtant, je crois que c'était des choix d'images.
Il faut les confier à la presse, vous le ferez, j'imagine.
Et... Parce que avoir, enfin c'est assez rare, avoir le jour de la bataille une impression directe du héros, je trouve que ça, c'est assez précieux. Moi j'ai tellement travaillé dans les archives, qu'est-ce que j'aime, retrouver la sensation sur le moment où se passe la chose.
D'ailleurs toujours cette connivence recherchée, la première carte postale représente la Marseillaise de Rude sur l'Arc de Triomphe.
Eh oui.
Le champ du départ, s'écrit-il, pour Épinay-sur-Seine où commence ce matin le congrès socialiste, dont je pense, tu le sais, qu'il peut changer toute la politique française. Il fait un froid de loup, j'ai essayé de t'attendre au téléphone, mais il est aimable, etc. Tu es dans ma vie, et ne pas te voir est comme une gêne, un mal revient vite. Lendemain, le congrès, et cette fois c'est le tableau de Degas, le fameux tableau L'Absinthe, avec au dos deux congressistes socialistes dans un café d'Épinay. Je laisse nos auditeurs se référer à ce tableau-là. Il écrit « Le congrès, j'y vis assidûment, assis parmi les délégués de la Nièvre, je ne quitte pas ma chaise ». Il vous raconte vraiment les choses de près. La troisième carte postale, c'est une peinture de Moser, très abstraite.
Oui.
Où il écrit « Mon discours lit et emporte le congrès, mouvement d'une rare intensité, ma motion distance l'eau de 2200 voix ». Je renvoie les lecteurs à ce résumé. Il éprouve le besoin très très fort de vous dire à mesure ce qu'il en est. Vous avez, Anne Pinjot, exhumé un texte que nous croyons inédit, qui s'appelle « Les dés », et qui est une réflexion, c'est pas une nouvelle, c'est une observation en forme de recul sur les relations entre l'homme public et le hasard, entre lui-même, François Mitterrand, et la chance et la fortune. Il explique qu'enfant, le jeu de loi l'excitait quand il jouait avec son grand-père. La loi du hasard, dit-il, a le sombre attrait de la philosophie. Ce dé qui vous expédiait au cachot, en enfer, qui, tout près du but, vous tirait soudain vers le zéro avec le chemin à refaire ou qui traversait les embûches comme s'il avait des yeux pour les voir, j'éprouvais une délectation à le regarder décider pour moi. Et c'est là que il parle de sa vie politique, d'une manière que je veux rappeler et dont il vous avait fait confidence, Anne Pinjot. Je suis devenu le contraire d'un joueur, ce qui détrompera mes ennemis, qui n'ont parlant de moi que ce mot à la bouche. Ma vie politique est ainsi faite. Incapable d'avancer d'un pas, sans avoir rassemblé toutes les ressources de ma raison, incapable de m'arrêter, sans avoir épuisé les réserves de ma volonté. La raison, la volonté. Est-ce jouer encore ? Beaucoup le penseront, qui sont les éternels traîne-patins de l'histoire. Mais aussi étranger que je sois au jeu de hasard, je considère que l'homme d'État se distingue à sa capacité de prendre en compte les terres inconnues une fois le reste exploré. La lucidité et l'instinct. Ces mots tracés, dit-il, c'est toujours François Mitterrand qui écrit, je les corrige. L'inconnu n'est pas tout à fait inconnu quand je l'aborde. Quelque chose en moi m'avertit, qu'on appellera l'intuition, à moins que ce ne soit une très vieille science, transmise depuis que le monde est monde, et qui s'inscrit dans un recoin du code génétique. Et cette dernière phrase, je ne calcule pas, je sens. Vous retrouvez là, Anne Pinjot, l'homme que vous avez aimé, considéré, suivi, appuyé,
c'est un
aidé.
C'est un portrait très exact, très juste. Mais il sent aussi parce qu'il a fabriqué son instrument de sensibilité, hein, donc ces années prisonniers, ces années de député de la Nièvre dans les brouillards, et il a aiguisé 1000 antennes, et qui vont, quelquefois, il se trompera.
Hasard et détermination,
oui.
Volonté et intuition. Cela vaut pour la politique, cela vaut aussi pour éventuellement pour les choix majeurs de la vie quotidienne, non ?
Oui, oui.
Vous l'avez ressenti ?
Oui, je pense.
Un homme d'instinct ou un homme de volonté affirmée ?
C'était le ressort des deux ensemble. Vraiment. Mais bon, il suivait son instinct, mais avec une volonté, un acharnement... sans précédent.
Quand on considère sa vie politique, dont vous avez été dans l'ombre, le témoin, tout cela s'applique assez bien.
Oui.
Vous avez été la confidente des moments de très grande décision. Il y a eu naturellement la candidature de 65.
Oui.
Qui le fait vraiment émerger,
oui,
contre De Gaulle. Et il a...
Et alors là, c'était quand même un joueur. C'était impressionnant de se lancer là. S'il a pu y aller, c'est que personne ne voulait y aller. De Gaulle était tout puissant. Et la chance a joué en sa faveur. Parce qu'il n'y aurait pas eu le canuet, il y aurait De Gaulle passé au premier tour. Donc, la chance accompagnée avec, c'était de telles tractations avant pour arriver à prendre la place qu'il voulait.
Après qu'a échoué l'idée d'une coalition entre, en effet, le centre...
Qu'il avait bien soutenu.
Et la SFIO.
Mais ce n'était pas son idée. Mais il l'avait vraiment soutenu de fait.
La nouveauté, c'est qu'il l'obtient,
oui,
presque à sa surprise.
Oui.
Il a des contacts discrets avec Valdez Crochet, dont,
oui,
il vous fait la confidente.
Oui, avec ce Borker qui faisait l'aller-retour.
Borker, oui, il y a le soutien qui surprend beaucoup d'observateurs, que lui apporte le Parti communiste, qui ne présente pas de candidat. Ça a été sa trouvaille.
Comment dire ? Ça a été sa botte secrète, enfin. C'était extraordinaire. Mais ça, c'était dû aussi à une... Parce que les communistes, ils les connaissaient bien. Et en camp de concentration, et dans la Nièvre. Donc c'est autre chose. Donc ça, c'était son coup de maître. Et ça a marché.
Il y a d'ailleurs quelques jubilations dans le mot qu'il vous envoie pour vous faire la première confidente de sa décision d'être candidat.
Oui. Alors ça, c'était rude, hein, parce que moi, j'étais sur une autre planète. Et alors là, c'était tout d'un coup... il partait comme une fusée de l'endroit où on s'était enfin rejoint.
Vous avez craint qu'il vous échappât ?
Oh, oui, c'était...
Déjà ?
Oui. Bon, il... Comment dire ? C'est aussi beau de voir quelqu'un réussir, s'épanouir, se battre avec... C'est aussi extraordinaire.
45% au deuxième tour.
Oui.
Contre le général de Gaulle.
C'est extraordinaire.
Président de la République. Il n'y a d'ailleurs pas de lettre entre octobre et décembre.
Ah oui, parce qu'alors là, il y avait la campagne.
Il n'y avait pas le temps.
Mais épuisant. Épuisant. C'était un battant, un point. Là, je me souviens de rendez-vous impossible, parce qu'il fallait arracher ça au temps.
Il ne restait plus que le téléphone et la voix.
Oui. Non, non, quand même. Mais ça explique qu'il n'y avait quand même plus de lettres.
Le second moment très très impressionnant où il vous fait également confidence de sa décision, c'est à la mort prématurée de Georges Pompidou, qui est mort le 2 avril 1974, et où il décide de se présenter.
Oui.
Il s'était d'ailleurs préparé, il ne s'est pas présenté en 69 après, mais 68, vous rappelez.
C'est bien que 69, il y a eu cette expérience avec cet échec inimaginable, inattendu.
De faire Mendès France 5%.
Mais, oui, mais il fallait que ce soit fait.
Pour purger, en quelque sorte.
Mais oui. Sinon, tout le monde répète ce que disent les journalistes. Alors, ça avait été fait. Donc, il pouvait passer à l'expérience suivante. Et ça a été très, très proche en 1974.
De très peu. Il apprend la nouvelle de la mort de Pompidou. Il dîne chez Lippe. Il est très souvent chez Lippe. La géographie des restaurants, c'est intéressant pour les Parisiens.
C'était à son centre vital, j'ai l'impression.
et là, vous n'avez pas douté, proche de lui comme vous étiez, qu'il allait se présenter?
Non, non.
Après l'échec Mazarine, la vie vraiment partagée, après...
Pas partagée du tout. Et non, non, la vie séparée.
Mais bonheur parce qu'il venait le soir.
Bonheur parce que oui, c'était tous les soirs. C'était vraiment... je le regrette pas.
Mazarine, oui, vous avez donné un texte d'elle parlant de...
J'ai trouvé ça par hasard, j'ai trouvé ça tellement drôle.
Elle avait environ 13 ans.
Elle avait 13 ans, elle devait être en séjour linguistique en Allemagne. Et je ne sais pas quelle idée la mouche l'a piquée de faire le portrait de son père.
On en donne quelques extraits, vous voulez bien le lire ?
Ah oui. C'est en juin 1987, Mazarine, qui a 13 ans, fait le portrait de son père. Il existe des cas où l'on ne se connaît pas soi-même, mais il se connaît. Et s'estime, je le crois. Quelle chance d'être aimée et préférée par un père président de la République. Seule, oui, je suis la seule à connaître cela en France, à connaître cette personnalité si secrète, si belle. Il lutte la journée avec ses ennemis, et le soir, il s'attendrit à me bercer. Il est très rusé. J'aime lorsqu'il me raconte ses trois évasions. C'est très dur de s'imaginer qu'il a fumé, lui, si sûr de soi et maître de lui, si conscient des choses qu'il ne faut pas faire. Sa vie est une aventure mémorable. Il a tout vu, la lâcheté, la douleur, la vengeance, la brutalité, la mort, la vie, l'amour de la vie, le dégoût, le désespoir. Mais m'a-t-il dit un jour, jamais je n'ai été vraiment triste. Je saute. Grand tombeur de femmes, il a tout pour plaire. Humour, intelligence, une certaine beauté, une attirance sournoise. Il ne peut les décevoir. Personne ne peut savoir ce qu'il pense. Jamais maman n'aurait pensé qu'il aurait pu tant s'occuper de moi. Pendant 20 ans, je corrige, non 12, il lui avait caché ce don pour les enfants. Je saute encore. D'ailleurs, il a toujours soutenu ceux qu'il aimait bien, même si ceci faisait une faute. Elle avait bien compris. Et ce...
Mazarine, 13 ans.
Oui. Mais ils s'entendaient très bien, très très bien.
Elle venait la voir à peu près tous les soirs.
Oui, il l'endormait, elle dormait, petit lit là-haut, elle mettait la tête sur sa cuisse et il lui chantait des chansons, et il l'endormait, c'était... Elle a beau s'en plaindre, elle a eu une enfance quand même heureuse.
Eh bien, je crois qu'il était important que nous fassions entendre sa voix une page au cours de cette émission. L'histoire, Clio, Clio. Oui. L'histoire est très présente et les références, il y a deux moments qu'on voit, on le savait, mais on le voit précisé dans cette correspondance avec vous, Anne Pinjot. Il y a la période de la Renaissance, il songe toujours à faire son livre sur Laurent le Médicis.
Oui, oui.
Et puis le 19e siècle, le combat des...
À l'eau de décembre, c'est ça, fait qu'il doit à Gallimard l'eau de décembre.
Il le doit toujours.
Il doit toujours, et alors c'est rigolo parce que sur le journal, il a mis autre ouvrage de l'auteur et elle a... sur le journal, ils annoncent les lettres, et sur les lettres, ils annoncent le journal, mais ils ne parlent pas du 2 décembre.
1851, non pas Austerlitz, mais le coup d'État,
c'était le coup d'État.
De l'affreux prince-président.
Oui.
Et d'ailleurs, dans son discours de l'hôtel de ville, au moment où il prend ses pouvoirs comme président de la République, on le voit rebondir de révolution en révolution. C'est en 89, 93, 1830, 1848. Alors que Chirac se contente d'évoquer Étienne Marcel et la libération. Vous lui écrivez un jour, c'est une des rares lettres que vous nous faites le bonheur de pouvoir lire. Elle est signée Asinus.
Oui.
Je t'admire de t'attaquer au 2 décembre. C'est terrible l'histoire. Si on est réellement historien, on n'écrit plus rien, car on se laisse absorber par le document. Quelle leçon. Si on écrit, on refait une histoire, ou plutôt on se projette sur les données fournies par un réseau subjectif. Je ne ferai pas, Anne Pinjot, circuler trop ce texte de vous parmi mes confrères historiens.
Eh oui, mais écoutez, deux personnes qui ont vécu ensemble le même événement vous le racontent de façon tellement différente qu'ils prouvent que l'histoire n'est pas possible.
Elle n'est pas possible, c'est terrible
mais
ce que vous
me dites. Mais c'est pas possible.
Même l'histoire de l'art.
Ah oui, surtout l'histoire de l'art, encore plus.
Pourquoi ?
Parce qu'on voit avec ce qu'on sait, et le savoir, il change tout le temps. Et avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on sent, avec... Moi, j'ai détesté le 19e avant d'apprendre à le connaître.
Eh bien, nous en tiendrons là pour aujourd'hui, Anne Pinjot, et nous nous retrouvons demain, je m'en réjouis.
À demain.
Demain, la suite de cette rencontre enregistrée en 2016 par Jean-Noël Jeannet avec Anne Pinjot, en partenariat avec France 5, à l'occasion de la diffusion du film François Mitterrand et Anne Pinjot, fragment d'une passion amoureuse. À voix nue, réalisation Anne-Laure Chanel, Thomas Jost, prise de son Jérémy Tuile, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.